monde il est beau, tout le monde il est gentil.
Quand en des frontières, le commerce mondialise, que sous sa bannière, toutes les nations agonisent, quand pour seule culture, c'est le règne de l'argent, que sans fioriture, on vit rationnellement. Dans ce monde épanoui, libéral son parti pris, où l'argent nous réunit, moi je me dis. Tout le monde il est beau, le commerce réjouit.
Dans le numéro 423 du 1er novembre 2019 de Vigous, le petit satirique roman, nous avons découvert un article sous la plume de Laurent Flutsch qui brosse un tableau très éloquent des accointances entre pouvoir politique et monde des affaires et de la finance suisse. Et comme sa cause de Nestlé et des petites et grandes affaires avec le monde politique fédéral et la direction pour la coopération et le développement, quel n'est pas notre plaisir de le partager dans cette série sur les multinationales. Nous remercions vigoureusement Vigous et plus particulièrement Laurent Flutsch qui nous a donné carte blanche pour la lecture de cet article. Voici donc Nestlé, Cassis, fait son nid.
Cassis de chez Nestlé. Béguin en capitale. Dans le nid douillet de la diplomatie et de l'aide suisse au développement, le ministre PLR Ignacio Cassis vit une très belle histoire d'amour avec Nestlé. On en est tout ému.
L'idylle couve depuis longtemps. En 2008 déjà, donc bien avant que Cassis accède au gouvernement, la Direction pour la coopération et le développement, la DDC, a participé à la création d'un aéropage composite voué à une noble cause humanitaire, la gestion durable des ressources en eau sur la planète bleue. Baptisé 2030 Water Resource Group, ce machin, hébergé par la Banque mondiale, est gouverné par un mélange de responsables étatiques, dont le directeur de la DDC, de représentants de la société civile et de dirigeants du secteur privé. Parmi ces derniers, trois pontes appartenant à la Coca-Cola Company, à PepsiCo et à Nestlé. On devine de toute la ferveur purement philanthropique de ce trio-là. De fait, le grand patron de Nestlé, Peter Brabeck, avait suscité la polémique 3 ans auparavant en déclarant que l'accès à l'eau potable est peut-être un droit humain fondamental, sauf que pas vraiment. Vu que l'eau a une valeur marchande et que par conséquent elle peut et doit être une denrée commerciale et une source de profit comme les autres. Sans moufter pour autant, la socialiste Micheline Calmiret, ministre des Affaires étrangères en 2008, avait béni l'union entre la DDC et le 2030 Water Resource Group. Et depuis lors, on a vu à maintes reprises à quel point Nestlé se préoccupe d'une gestion durable et équitable de l'eau. Des États-Unis au Brésil et du Canada à la France, on ne compte plus les populations furibondes contre la multinationale qui siphonne leur nappe phréatique pour la mettre en bouteille et en marge bénéficiaire juteuse. Rappelons par ailleurs que Nestlé a été condamné par la justice en 2013 pour avoir, en mode barbouze, infiltré et espionné des ONG critiques à son égard, notamment ATTAC. Manifestement, ces agissements illégaux, compromettants et plutôt salissants, n'ont jamais entamé la douce et tendre complicité entre la DDC et la firme Veuvezanne. Cela dit, c'est avec Ignacio Cassis que la liaison a viré à la passion éperdue et torride. Ainsi, le conseiller fédéral annonçait triomphalement en février 2019 la création à Genève de la fondation Geneva Science and Diplomacy Anticipator. Objectif du bazar, anticiper les développements technologiques, des drones aux OGM en passant par les voitures autonomes et tout le tralala, évaluer leur impact au plan politique et sociétal et orienter en conséquence la diplomatie suisse. À première vue, la chose paraît opportune, Mais qui donc Cassis a-t-il jugé bon de placer à la tête de la fondation ? Peter Brabeck, ex-boss de Nestlé. Et Patrick Ebischer, ancien patron de l'EPFL, qui avait vendu deux chaires professorales à Nestlé et qui pantoufle depuis lors au conseil d'administration de Nestlé. Allez donc savoir pourquoi on a comme l'impression que ce cénacle n'utilisera pas le levier diplomatique afin de réglementer l'exploitation des ressources en eau ou de promouvoir des contraintes d'aucune sorte pour les multinationales. À tel point que d'aucuns, jaloux sans doute, se demandent qui au juste dirige les relations extérieures de la Suisse et au service de quel intérêt. Enfin, dernier mamour en date, Ignacio Cassis a bombardé à la tête de la coopération globale de la DDC, et notamment à la tête du programme Eau, le dénommé Christian Frutiger, ci-devant patron des affaires publiques de Nestlé. En cette qualité, le dit Frutiger a déployé son talent à défendre sa boîte lors du scandale des mouchards chez Attaque et Consort, et contre les jacqueries liées au pompage intensif de l'eau, à Vittel ou ailleurs. Nul doute qu'à la DDC, il saura garder dans un recoin de sa mémoire le souci des intérêts de Nestlé. Sous sa houlette, le programme Eau et autres actions suisses d'aide au développement ne nuiront certainement pas à ses intérêts, bien au contraire. Si l'on résume un brin crûment. Pour gérer son soutien aux pays en difficulté, la Confédération nomme le représentant d'une firme qui s'engraisse en pillant ces pays. Pour apporter de l'aide aux petits poissons, on nomme un grand requin. Ajoutons pour la bonne bouche que toutes ces cajoleries diplomatiques envers Nestlé sont en bonne part financées par le contribuable. La nomination de Christian Frutiger à la DDC a soulevé un tollé chez les ONG humanitaires et écologistes. Une pétition partie d'Amérique du Nord a même été lancée. Suffira-t-elle à changer la donne ? Probablement pas. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre. Si d'aventure Ignacio Cassis est éjecté du Conseil fédéral en décembre prochain, il trouvera sans peine un bon fauteuil au Conseil d'administration de Nestlé. C'est beau l'amour.
Dans cette 9e émission de la série « Des multinationales responsables aux consommateurs responsables », nous vous proposons de prendre connaissance d'un article datant de 2012 que Marc Guenya, de la Déclaration de Berne aujourd'hui Public Eye, avait publié dans les colonnes du Monde diplomatique et dans lequel il est question de pétrole et de céréales qui se négocient à Genève. Voici « Les géants des matières premières prospèrent au bord du lac Léman ».
Le scandale de corruption impliquant un employé genevois de la société Gunvor, spécialisée dans le négoce du pétrole, en marge d'un contrat avec la République du Congo, a suscité un certain émoi en Suisse. Bien implanté dans le pays, le commerce des matières premières deviendra-t-il pour la Confédération helvétique aussi gênant que le secret bancaire ? Au centre-ville de Genève, dans les rues basses, seul un œil averti distingue la petite plaque dorée de Gunvor, une entreprise spécialisée dans le commerce du pétrole russe ayant brassé en 2011 un chiffre d'affaires de 80 milliards de dollars, de celle d'un simple cabinet d'avocats. Au contraire des horlogers et des banquiers, les négociants en matières premières n'installent pas d'enseigne pour illuminer la rade de Genève au bout du lac Léman, pas plus qu'ils ne financent de tapageuses publicités dans les magazines. Au cours des 10 dernières années, la ville suisse romande s'est propulsée parmi les plus grandes places de commerce des matières premières, se posant en rivale de Londres et de Chicago. Peu connue du public, de grands noms du négoce pétrolier, minier et agricole, comme Vittel, Gunvor, Louis-Dreyfus, Mercuria ou Bunge, ont domicilié leurs entreprises entre Lausanne et la cité de Jean Calvin, où d'autres groupes, comme Cargill, sont établis de longue date. Les bords du Léman s'arrogent la première part des marchés du pétrole, des céréales, du café et du sucre. Rien qu'à Genève, le secteur compte plus de 400 sociétés pour un chiffre d'affaires de 800 milliards de francs suisses et près de 9000 emplois directs. Sa contribution au produit intérieur brut égale celle de la séculaire banque privée. Dans les métaux, comme le cuivre ou le zinc, c'est le canton alémanique de Zoug qui prend le relais. En termes de chiffre d'affaires, Nestlé n'est plus la première société suisse. En 2011, elle est passée à la quatrième place derrière Vitol, Glencore et Trafigura, qui culminent à 279, 174 et 114 milliards de francs suisses. Ce développement s'est produit quasiment à l'insu des Genevois et des Suisses. La presse n'a commencé à s'y intéresser qu'à partir de la fin des années 2000. Outre la tranquillité offerte par les autorités helvétiques, les négociants russes, français ou américains apprécient la proximité avec les agences onusiennes et une place financière de premier plan, nécessaire pour alimenter le commerce en capitaux. Sur le site ygeneva.ch, où il assure sa promotion économique, le canton de Genève ajoute un autre critère décisif, une taxation avantageuse complétée par des possibilités d'optimisation fiscale. Un euphémisme. Toute société réalisant au moins 80% de ses affaires à l'étranger n'est taxée qu'à hauteur de 11,6% sur ses bénéfices. Par comparaison, l'impôt sur les sociétés dépasse 33% en France et en Belgique. Du sur-mesure pour des entreprises qui acheminent des matières premières d'un bout à l'autre du globe et n'en vendent qu'une quantité résiduelle en Suisse. D'abord couvert par une opacité à la mesure du secret fiscal, ces implantations ont fait l'objet d'un rapport du Contrôle fédéral des finances, puis d'une enquête de la radio-télévision suisse. Voisin de Genève sur l'arc lémanique, le canton de Vaud a été épinglé en février 2012 en raison de la légèreté avec laquelle il a traité la venue du géant minier brésilien Vale, qui a établi sa succursale de négoce à Saint-Pré en 2006. Non contente de lui accorder une exonération complète des impôts cantonaux et communaux ainsi qu'une ristourne de 80% sur l'impôt fédéral, les autorités vaudoises ont calculé l'impôt sur le bénéfice en fonction des estimations fournies par la direction du groupe, sans aucun contrôle a posteriori de leur bien fondé. De son propre aveu, Vale a ainsi payé 284 millions de francs d'impôts entre 2006 et 2009. Or, en fonction de ses bénéfices réels, drainés vers Saint-Pré depuis les 38 pays où le groupe est actif, il aurait dû payer 3 milliards de francs de plus. Optimisation fiscale et dilution des responsabilités. L'exemple ne contrarie pas le président de la Geneva Trading and Shipping Association. Monsieur Jacques-Olivier Thoman assure en effet que la Suisse se situe fiscalement en milieu de peloton, derrière d'autres grandes places de négoce comme Dubaï ou Singapour. Il ajoute que la fiscalité des personnes, c'est-à-dire des employés, n'est guère attractive à Genève. Sous couvert d'anonymat, un trader spécialisé dans le pétrole nuance. Il est vrai que l'impôt sur le revenu est élevé à Genève, mais les cadres perçoivent la majorité de leur rémunération sous forme de bonus. Or, ceux-ci sont généralement versés sur des comptes offshore à l'abri du fisc. Un autre complète. Pourquoi de simples comptables arrivent-ils à la retraite millionnaire? Parce qu'ils savent ce genre de choses. Aidés par de fins juristes, les comptables participent aussi à l'élaboration de structures très sophistiquées, car ces sociétés, bien qu'elles aiment se définir comme de simples négociants au service du commerce mondial, acheminant physiquement les boisseaux de blé ou les barils de pétrole d'un point A à un point B, apprécient les juridictions exotiques. Connu du public pour avoir affrété le navire Probo Koala, qui avait déversé des déchets toxiques en Côte d'Ivoire en 2006, un groupe spécialisé dans le pétrole comme Trafigura compte ainsi 40 entités établies dans des paradis fiscaux. Îles Marshall, Bahamas, Chypre, etc. Dans cette quête d'optimisation fiscale et de dilution des responsabilités juridiques, Trafigura n'a rien d'une exception. La discrétion de ces groupes est inversement proportionnelle à leur pouvoir sur les marchés mondiaux. Grâce à la hausse massive des prix des matières premières depuis le début du siècle, ils débordent leur rôle historique d'intermédiaires et étendent leurs tentacules afin de contrôler les prix des ressources énergétiques, des denrées agricoles et des minerais. En rachetant stations-service, champs, raffineries et mines pour remonter la chaîne de l'offre vers la production ou la redescendre vers la distribution, explique Emmanuel Franière, professeur à la Haute École de Gestion de Genève. Les sociétés de négoce s'éloignent ainsi de leur métier originel, la logistique pour se muer en producteur, distributeur, extracteur, etc. A l'inverse, des groupes traditionnellement axés sur la production, comme Total, Xtrata et Vale, se dotent d'une succursale de négoce afin de rejoindre eux aussi le lot des affréteurs et des traders. Les plus grandes sociétés occupent désormais une position de faiseur de prix, explique Chris Hinde, du Mining Journal. Ainsi, en 2010, Vittol et Trafigura ont vendu chaque jour 8,1 millions de barils de brut, c'est-à-dire autant que les exportations réunies de l'Arabie Saoudite et du Venezuela. Glencore n'est pas en reste dans cette course au contrôle des prix. Elle maîtrise 55% du commerce mondial de zinc et 36% du cuivre. Parvenus à ce stade, ces géants se changent en acteurs géopolitiques. En 2011, Vittol a approvisionné en brut aussi bien les rebelles libyens dans leur marche sur Tripoli que le régime de M. Bachar al-Assad en Syrie. De son côté, Glencore a signé des accords commerciaux avec Juba, la nouvelle capitale du Soudan du Sud, 3 jours après l'indépendance, en juillet 2011. De tels exemples jalonnent l'histoire du commerce. En contrepartie de ces opérations très risquées, ces sociétés obtiennent des contrats d'approvisionnement avec les gouvernements. Je ne vois aucune raison de réguler le commerce. D'une manière générale, les négociants ne sont jamais loin des points chauds de la planète. Du fait de leur fonction d'approvisionnement des marchés en matières premières, ils se fournissent parfois auprès des producteurs situés dans les pays difficiles, mais la plupart des transactions se font par appel d'offres, souligne M. Thoman. Questionné sur le risque que l'offre soit complétée par un dessous de table, l'ancien responsable du financement du négoce de BNP Paribas, numéro 1 mondial de cette activité, rassure. Le banquier doit s'interroger sur la réputation du fournisseur, le prix d'achat, le bénéficiaire du paiement et le contexte de l'opération. Il doit aussi s'assurer que l'opération ne viole pas un embargo ou une loi. Mais il ne peut ou ne veut pas savoir si un potentat confond la banque centrale avec son porte-monnaie. Ce risque n'a jamais incité la profession à militer pour davantage de transparence sur les marchés des matières premières. « Je ne vois aucune raison de réguler le commerce », assure par exemple M. Thornbjørn Tornquist, président-directeur général de Gunvor. M. Pierre Barbe, son confrère de Totsa, la filiale genevoise du négoce de Total, abonde. « Nous avons nos secrets, ils ne regardent que le pays hôte et nous. » Des secrets que ces sociétés comptent préserver. Glencore a longtemps pratiqué l'esquive. Avant de prendre pour nom cet acronyme de Global Energy and Commodity Resource en 1994, la société avait pour raison sociale Mark Rich & Co. AG, du nom de son sulfureux fondateur. La neutralité helvétique a permis à cet homme d'affaires d'origine belge, un temps émigré aux États-Unis, de se moquer des embargos en commerçant aussi bien avec le régime d'apartheid en Afrique du Sud ou l'Iran de Ruhollah Khomeini, que le Cuba de M. Fidel Castro. Il a figuré sur la liste des 10 individus les plus recherchés par le Federal Bureau of Investigation, avant d'être gracié pour d'obscures raisons par M. William Clinton le dernier jour de son mandat. En mai 2011, Glencore s'est cependant exposé au regard du public en procédant à une introduction partielle en bourse à Londres et à Hong Kong. Une injection massive de capitaux qui a permis à la société zougoise de compenser la perte de sa tranquillité par une frénésie d'achat. Le plus remarqué reste sa fusion avec le groupe Xstrata, un géant minier également établi à Zug pour 40 milliards de dollars. Cette entrée en bourse de Glencore a instantanément changé en milliardaire 6 de ses managers actionnaires qui conservent un large contrôle. Pas de quoi appâter M. Ian Taylor, président de Vittol. L'idée de devoir passer un temps énorme avec des actionnaires extérieurs et des journalistes suffit à l'en dissuader. Depuis cette opération, le PDG de Glencore, M. Ivan Glasenberg, détient un portefeuille d'actions dont la valeur équivaut à près de la moitié du PIB zambien, soit 16,2 milliards de dollars en 2010, selon le Fonds monétaire international. Sa société possède avec Mopani Copper Mines, MCM, la plus grande mine de cuivre et de cobalt de ce pays enclavé d'Afrique australe. Située dans la ceinture de cuivre, la province minière du nord du pays, cette exploitation a fait parler d'elle l'an dernier après la fuite d'un audit pilote réalisé à la demande du fisc zambien. Entre 2005 et 2008, les cabinets Grant Thornton et Econ Poiry observent de nombreuses incohérences comptables qui ne s'expliquent que par la volonté de MCM de diminuer son imposition. Des mécanismes de transfert de prix lui permettaient d'exporter ses bénéfices en Suisse, où ils sont taxés au détriment des recettes de l'État zambien. Dans un communiqué, le 2 juin 2011, le groupe Tsugwa a qualifié d'erroné le schéma de soustraction fiscale qui émerge du document. Il fait néanmoins l'objet d'une plainte déposée par une coalition d'organisations non gouvernementales auprès du point de contact suisse de l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE. Pour autant, rien n'indique que la tranquillité des négociants soit menacée. Le gouvernement helvétique ne vient-il pas de renoncer à soumettre le secteur à la loi sur le blanchiment ? Les opérations de négoce, leur financement et les paiements qui y sont associés passent par le système bancaire qui y est assujetti. D'autre part, les sociétés doivent respecter l'ensemble du code pénal suisse qui comprend l'interdiction de la corruption. Fait volard, M. Thomann. C'est insuffisant pour M. Marc Pitt, président du groupe de travail de l'OCDE sur la corruption et membre de la commission chargée d'enquêter sur le programme irakien de l'Organisation des Nations Unies, Pétrole contre Nourriture, un scandale dans lequel ont trempé de nombreuses sociétés domiciliées en Suisse. Les éléments décisifs ayant fait de la Suisse une plaque tournante des matières premières sont le secret bancaire et la très faible propension de notre politique à la régulation, analyse-t-il. Inquiétude pour l'image de la Confédération. Cette situation débouche sur un paradoxe tout helvétique. De la main gauche, la Confédération promeut les droits humains et vante sa générosité en matière d'aide au développement. De la main droite, elle attire les entreprises de négoce des matières premières par une politique fiscale agressive et ignore l'action de leurs filiales dans les pays en développement. Toutefois, ce grand écart intellectuel et politique devient difficile à justifier. Et comme ce fut le cas avec l'industrie de l'évasion fiscale, c'est sous la pression que Berne accepte de se pencher sur le commerce mondial des millions de barils de pétrole, des tonnes de cuivre et de blé qui transitent virtuellement par la Suisse. En décembre 2011, peu avant le lancement d'une campagne demandant au Parlement de légiférer afin que les entreprises ayant leur siège en Suisse respectent les droits humains et l'environnement partout dans le monde, le Conseil fédéral s'est résolu à produire un rapport sur le secteur. Plus récemment encore, le représentant Économie et Droits de l'Homme du département fédéral des affaires étrangères, M. Rémi Friedman, a détaillé la position suisse. Comme les entreprises suisses profitent de notre image de patrie des droits de l'homme, nous ne voulons pas qu'elles mettent cette image en danger. Elles doivent comprendre, a-t-il ajouté, que la sécurité humaine et la sécurité des investissements sont les deux faces d'une même médaille, et elles doivent savoir que leurs agissements peuvent avoir des conséquences sur leurs activités. Pour sa part, M. Piette estime que la Suisse encourt, avec le commerce des matières premières, le risque de dommages pour sa réputation similaire à ceux qu'elle a subis avec le secret bancaire. Mais face aux modestes velléités réglementaires, les négociants n'entendent pas se laisser faire. Certains ont déjà menacé de délocaliser leurs activités sous des cieux plus cléments, comme à Singapour ou à Dubaï. Et contrairement aux banques, les sociétés de négoce sont composées de structures légères qui leur permettent de plier rapidement bagages, au gré de l'accueil fiscal et réglementaire qui leur est réservé.
Au terme de ce billet, nous remercions Mathias Pernet pour sa contribution à la lecture de l'article. Nous remercions également l'équipe de Radio Django qui nous permet de poursuivre notre émission. À la conception, réalisation de cette thématique et à sa mise en onde, Patrick Rion, Jean-Luc Rochat, Fabio Cattaneo. Rédacteur responsable, Patrick Rion. À la semaine prochaine.